Lizzie présente Vampiria livre 3, La cour des ouragans, de Victor Dixen. Lue par Marie Dubled. Pour eux. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère, et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Pierre de Marbeuf, recueil de vers, 17e siècle de l'ère chrétienne. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille, pour savoir qui serait saigné, pour savoir qui serait saigné, ohé ohé. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune. Le mousqui qui se mit à pleurer, le mousqui qui se mit à pleurer, ohé ohé. Chant de corsaire vampire, 3e siècle de l'ère des ténèbres. Code mortel, codex mortalis, édit de Louis l'Immuable, roi des ténèbres, Ludovicus immutabilis, rex tenebrae, servant de règlement pour l'administration des roturiers mortels du Caréta, à travers le royaume de France et ses vice-royaumes de la Magna Vampiria. Préambule. Par la grâce des ténèbres, la société de la Magna Vampiria est divisée en 4 ordres. Un ordre immortel, les vampires de la haute noblesse, et 3 ordres mortels, les hobereaux de la basse noblesse, les docteurs de la faculté hématique et les roturiers du Caréta. Les articles ci-dessous concernent cette dernière population. Article 1er. Obéissance. Obuedientia. Les roturiers naissent et demeurent sous la protection des vampires, en contrepartie de laquelle ils leur doivent une soumission totale. Article 2. Parcage. Sequestrum. Durant le jour, tant que brille le soleil, les roturiers ont interdiction de s'éloigner à plus d'une lieue de leur clocher. Article 3. Couvre-feu. Ignitegium. Durant la nuit, dès que sonne le tocsin, les roturiers ont interdiction de quitter leur domicile. Article 4. Dîme, décima. Chaque mois, les roturiers ont obligation de verser un dixième de leur sang. Article 5. Sanction, supplicium. Tout contrevenant aux articles précédents sera exécuté. Chapitre 1. Sanctions.
Où est notre or ? Gronde le roi des ténèbres.
Sa voix caverneuse filtre à travers ses lèvres immobiles, ce masque en or qui depuis 300 ans dissimule son visage au monde entier. Le trône sur lequel il siège en majesté est lui aussi en or massif. Du sol au plafond, les lambris du salon d'Apollon sont dorés à la feuille. Il y a dans cette pièce assez de métal précieux pour couler les couronnes de 100 souverains. Mais ce n'est pas encore assez pour rassasier l'ogre royal, dont l'appétit de richesse et de sang ne connaît pas de limite.
« Où est notre or ?»
répète-t-il, un ton plus bas. Des personnages à la nuque courbée se tiennent en bas des marches tapissées de velours menant au trône. Au premier rang, 3 nobles vampires, reconnaissables à leur teint blafard et à leurs talons rouges. Derrière eux, 6 aristocrates mortels. Ces derniers ont la face sillonnée de cicatrices. L'un d'entre eux s'appuie sur des béquilles et un autre porte son bras en bandoulière dans un bandage épais. Voilà tout ce qui reste de la flottille française des Amériques, jadis forte de 30 vaisseaux. Une dizaine d'officiers piteux et quelques poignées de matelots rescapés qu'on a logés dans les hospices de Versailles.
L'ennemi nous a pris par surprise, votre majesté,
bafouille le plus massif des immortels. Un échalas au dos affaissé par la honte, le visage chiffonné entre les boucles de sa lourde chevelure brune.
« Nous nous sommes battus du mieux possible, mais nous avons été débordés. »«
Ces jérémiades ne répondent pas à notre question, Marigny. »
coupe le vampire suprême, son timbre métallique et surhumain tranchant comme le fil d'une hache.
« Voulez-vous vraiment que nous la répétions une troisième fois ?»
Un frémissement parcourt